Nous souhaitons mettre en avant, grâce à Jérôme, je vais citer plusieurs fois ton prénom, mettre en avant la collection Hélios Noir. On est vraiment très très fiers de la promouvoir, de la faire vivre ici au sein de la librairie de Citre de Chambéry. Et donc, merci à vous d'être là pour participer à cette rencontre. Et bien entendu, merci aux auteurs présents de venir jusqu'à Chambéry pour venir nous rencontrer. Alors, il nous manque un auteur et il va arriver tardivement, on espère au plus tôt. Il est coincé dans un TGV qui a quelque peu de retard, malheureusement. Donc, Laurent Petit s'est coincé dans le TGV, mais on verra si entre-temps on a des nouvelles, si le TGV reprend un peu de vitesse. Et s'il arrive à arriver à temps parmi nous. Alors, merci Alex encore une fois de m'accompagner dans cet exercice. Ça fait une paire de fois maintenant qu'on le fait, mais c'est toujours un plaisir de faire cet exercice de rencontre avec les auteurs. Pardon ? Et alors, on va commencer par toi, Jérôme. Tu m'as dit de ne pas le faire, mais évidemment, je n'ai pas suivi ton conseil. Je voudrais en savoir plus parce que c'est intéressant de savoir quand même. Nous qui sommes libraires, on connaît la face cachée un petit peu de la librairie. Vous qui êtes lecteurs, vous avez peut-être moins cette vision-là. Et nous tous, nous avons moins la vision aussi avant. Qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'une fois que le livre est déjà en librairie, il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup de recorrections. Et puis, il faut que le manuscrit trouve à un moment donné quelqu'un pour le lire, l'apprécier à sa juste valeur et ensuite avoir envie de le défendre coûte que coûte. Et parfois avec quelques batailles, et donc j'aimerais bien que tu nous en parles. Et puis un petit peu aussi, Jérôme Vincent, Chambéry, ActuSF, d'où ça sort, d'où tu viens, on veut tout savoir.
Là, vous avez bien fait de venir.
Hop, tac, tac.
Voilà, je suis pas très bon au micro, je suis plus en littérature. C'est une grande question, ça fait beaucoup. Rapidement, ActuSF, c'est une entreprise qui a 16 ans maintenant, qui peu à peu a développé, en plus d'un site internet d'actu littéraire, une maison d'édition depuis une dizaine d'années. Maison d'édition qu'on a rapatriée à Chambéry en 2010, un peu par hasard, faut dire ce qu'il y a, mais bon, voilà. Ça fait maintenant 6 ans qu'on est là. C'est une maison d'édition où on a trois personnes qui bossent à plein temps dessus. Donc Marie Marquez qui est juste à côté, puis Jean-Laurent qui viendra avec nous, avec tout un tas de collaborateurs. On a à peu près 110 bouquins aujourd'hui, clairement. Plus dans notre maison d'édition ActuSF, on a fondé un collectif avec deux autres éditeurs, Nemos et Les Moutons Électriques. Et on fait des bouquins de poche qui s'appellent Hélios. Et au sein d'Hélios, il y a une sous-division, une surdivision polar, un département qui s'appelle Hélios Noir, puisque l'idée, c'est que, puisqu'on fait beaucoup, nous, de science-fiction et de fantasy, on est quand même très voisins en littérature de mauvais genre avec le polar, et c'est donc ça nous permet d'aller travailler d'autres textes, d'aller discuter avec d'autres auteurs, et de pouvoir développer tout ça. Donc ça, c'est plutôt cool. Après, la question de savoir comment est-ce qu'on choisit un manuscrit, c'est un peu compliqué, parce qu'il y a plus, en fait, il y a trois voies très rapidement pour choisir les manuscrits. Il y a tous les gens qui nous envoient des manuscrits et qu'on ne connaît pas. Donc ça représente aujourd'hui 300 à 400 manuscrits par an, à peu près. Il y a tous les auteurs qu'on connaît ou avec qui on bosse ou qu'on connaît pour X ou Y raison. Qui nous envoie des manuscrits, donc ça fait aussi un contact direct, entre guillemets, parce qu'on a envie de travailler ensemble, ou parce qu'ils pensent que leur manuscrit peut convenir à notre maison d'édition. Puis la troisième voie, c'est tous les manuscrits qu'on achète à l'étranger. Enfin, je dis tous, je crois qu'on fait 2-3 livres étrangers par an, ça va, c'est raisonnable, mais du coup, là c'est un peu différent, on connaît moins l'auteur, et on va aller acheter un manuscrit, on va acheter les droits pour le publier en français. On a de la chance d'avoir pu rencontrer un certain nombre d'auteurs étrangers qui sont venus en France, mais il y en a des qu'on ne connaît pas. Mais on publie notamment Georges Martin, qui est l'auteur du Trône de Fer. Et nous, on a les autres livres de Georges Martin. Et on a pu rencontrer Georges un jour dans un palace en Suisse. Ah, c'était bien. On en parlera plus tard, rigole quoi. Et donc, voilà. Et ça, c'est un peu vraiment le début du boulot. Globalement, nous, on a 10 grands formats par an et 10 bouquins de poche. Donc si vous enlevez les gens avec qui on bosse d'habitude, les deux, trois auteurs étrangers. Ça laisse de la place pour un à deux manuscrits arrivés par la poste non sollicités, arrivés par mail. Donc ça vous donne un petit peu l'ampleur de l'entonnoir. Hein. Il y en a 300-400 qui arrivent. Et là-dedans, on va peut-être en sélectionner un ou deux. Donc ça laisse quelques désillusions de temps en temps, mais bon, c'est un petit peu compliqué. Le boulot sur il faut savoir qu'on fait la distinction. En général, le grand format sont des manuscrits inédits. Donc là, on va vraiment travailler sur un texte inédit, on va travailler avec l'auteur, on va essayer de corriger, de l'avancer. Le bouquin de poche, c'est plus dans le cadre d'une réédition. Donc, du coup, on va plutôt prendre un texte qui a été publié ailleurs, ou chez nous, et on va le publier tel quel ou avec des modifications en poche. Voilà à peu près les choses. C'est un peu comme ça que ça s'est passé avec Francis. On s'était croisé il y a longtemps, au temps d'un livre qui s'appelait Appel d'air. Et puis, un jour, par hasard, j'ai découvert que La santé par les plantes, qui est un bouquin extraordinaire sur la constipation, je sais pas, il va en parler, n'avait plus d'éditeur papier. Et donc, du coup, je l'ai lu, et puis on s'est appelé, on s'est mis d'accord, et puis c'est arrivé comme ça.
Ok. Merci, Jérôme, pour cette présentation. Alors, on est là pour leur donner la parole. Donc, on va vous laisser un petit peu vous présenter, parce que c'est vrai qu'on a essayé plusieurs formats où c'est nous qui parlons des auteurs. Alors, des fois, on récupère des informations qui sont vraies, d'autres qui sont erronées. Et du coup, quand l'auteur nous le fait remarquer, donc on préfère du coup vous laisser la parole et vous présenter sous la forme que vous avez envie, sur ce que vous avez envie de dire de vous. Et évidemment, voilà, comment vous êtes arrivé à l'écriture et effectivement, donc, cette arrivée à Elios Noir. Qui du coup est souvent comment dire une édition où il y avait d'abord je cherche mes mots une précédente édition, voilà, et donc c'est effectivement intéressant de ce point de vue là surtout que lors de notre précédente rencontre avec Aurélien Masson on avait pu effectivement évoquer cette notion de manuscrit, récupérer son manuscrit et avoir cette envie à un moment donné de travailler avec quelqu'un d'autre différemment et tout simplement voilà avec quelqu'un d'autre. Donc merci de faire un grand hommage donc à Monsieur Misio et à Monsieur Darvel qui sont là. Je ne sais pas, je vous passe peut-être la parole en premier, si ça va. Oui, c'est comme vous voulez, ça dépend comment. Voilà. Donc je vous laisse, voilà. Présentez-vous, vous nous dites ce que vous avez envie de nous, évidemment. Merci à vous.
Bon, bonjour, merci d'être là. Excusez-moi, je suis un peu vaseux, mais ça va passer d'ici quelques années. Alors, je suis Robert Darvel, donc pour expliquer le plus simplement les choses, c'est pas mon vrai nom. Robert Darvel, c'est un monsieur qui a été sur Mars en 1907. C'est le héros d'un livre de Gustave Le Rouge qui s'appelle Le prisonnier de la planète Mars. J'ai lu ça quand j'avais 10 ans, et ça m'a un petit peu... c'est rentré dans mes neurones. C'est l'histoire d'un monsieur qui se fait projeter sur Mars par la force psychique de 10 000 fakirs. Il arrive là-haut, il est tout seul, il est tout nu, et il faut qu'il se débrouille pour communiquer avec la Terre et revenir. Et sur Mars, c'est un peu le souk, c'est comme ici, mais avec des grosses bêtes, il y a des vampires, bien sûr, etc. Donc j'ai lu ça quand j'ai eu 10 ans, ça m'a énormément amusé, et je m'étais promis que si je faisais quelque chose de public, qui nécessitait un pseudonyme, je prenais celui-là. Donc je m'appelle Robert Darvel pour cette histoire-là. Là-dessus, en 1980, je suis tombé sur des rééditions d'un personnage qui s'appelle Harry Dickson. C'est un détective de l'étrange, disons. C'était à la base, c'était des aventures apocryphes de Sherlock Holmes, en fait, paru en feuilleton, en fascicule à partir de 1916, je crois. Et puis petit à petit, les ayants droit de Conan Doyle ont dit « Vous n'avez pas le droit de vous servir du nom Sherlock Holmes pour vos trucs. » On débaptise. Donc c'est devenu plein de choses, dont Harry Dickson, qui a été traduit de l'anglais vers l'allemand par un distributeur de fascicules, qui ensuite a tenu à les traduire en français et qui a fait appel à un néerlandais pour ça, ce qui est simple. Ce néerlandais, c'était Jean-Marie Raymond de Kremer, qui est c'est le Edgar Poe belge, sans jeu de mots, quoi. C'est quelqu'un de très... C'est grâce à lui qu'on se souvient d'un truc aussi médiocre qu'a été Harry Dickson avant que ce soit lui qui le prenne. Il a d'abord été payé pour traduire les histoires. Il trouvait ça tellement mauvais que petit à petit, il s'est insinué dedans. Il a commencé à changer des paragraphes, à changer des chapitres. Après, il a changé toute l'histoire. Le souci, c'est que son éditeur avait acheté les fascicules avec les couvertures, et les couvertures attiraient énormément le monde. C'était, je vais avoir un trou, enfin c'est Roloff, Alfred Roloff qui dessinait les choses, c'était très beau. Donc son éditeur lui a dit, pas de problème, tu peux réécrire les histoires, mais on garde la couverture. Donc Jean Rey est parti de la contrainte du titre, de la couverture et de la petite phrase qui est en dessous, comme à chaque fascicule. Et en 1990, j'ai un ami, c'est très simple, j'ai un ami normand qui a fait une série de peintures à l'huile de très grand format en reprenant des fausses couvertures. Il a continué la série là où Jean Rey s'était arrêté, c'est-à-dire au numéro 178. Il a continué à faire 33 toiles avec des fascicules qui n'existaient pas, avec la numérotation, avec le titre, la scène et la petite phrase. Moi, j'ai été à l'expo, j'ai retourné les toiles, il n'y avait pas d'histoire d'ailleurs. Donc, que faire ? Écrire des histoires. Donc, c'est comme ça que je suis devenu écrivain. En fait, il n'est pas hommage à Jean Rey, mais souvenir de Ray Dixon et ce peintre qui s'appelle Alain Letort. Et puis, on a essayé de démarcher des éditeurs. Ça n'intéressait pas les éditeurs qu'on a démarchés. Je ne citerai pas les noms, parce que je voulais faire ça au format fascicule, comme ça a été fait jusqu'en 1938. Donc, je me suis dit, en plus de m'improviser écrivain, je vais m'improviser éditeur. Donc, j'ai créé une maison d'édition qui s'appelle Le Carnoplast, en rapport avec Gustave Lerouge, toujours. Tout ça, c'est très cohérent. Et j'ai commencé à écrire et à publier les aventures de Ray Dixon sous forme de fascicule. Et puis là-dessus, André-François Ruot, des moutons électriques, quelques années après, a trouvé que le truc était très bien et m'a proposé de les rééditer au fur et à mesure en Helios. Voilà, l'Helios, c'est très bien, mais il n'y a pas les couvertures. Voilà, il n'y a pas les couvertures. Donc voilà, mais j'en ai amené quelques-uns avec les couvertures. Voilà pour la présentation.
Merci beaucoup. Merci. On passe la main.
Bonsoir. Donc je suis Francis Millot, je suis né très jeune. Je ne sais pas quoi dire. Je suis un ancien journaliste, j'ai été longtemps journaliste à Libération notamment, et voilà, on se pour le parti professionnel. Et je me suis assez vite fait chier de quelques années à Libé. Et ce qui me tenait beaucoup les camarades de Libé, parce que on peut se faire chier à Libé aussi. C'est les années 90, je suis pas tout jeune. C'est les années 90 et je suis avec deux, trois autres journalistes, je suis à l'origine du cahier multimédia de Libération en 95, voilà, avec Laurent Mauriac qui a fondé Rue 89, avec David Dufresne qui est la star du web, du reportage journalistique sous des formes complexes au Canada, etc. Et puis, au bout de quelques années, on a fait la vulgarisation. C'est-à-dire, on était les premiers journalistes à parler d'Internet de manière autre que technique, c'est-à-dire sociétale. Etc. Et puis, après avoir tourné dans toutes les pages du journal, sauf les pages de sport, parce que j'y connais rien, je m'emmerdais, donc je suis parti. Je me suis mis à écrire un roman, qui était un vieux truc de l'enfance d'écrire, et qui s'appelle La santé par les plantes, qui est pas tout jeune. Et à ce moment-là, j'ai eu plein de propositions de plein d'éditeurs, Gallimard, Flammarion. La santé par les plantes est sorti au départ chez un petit éditeur de La Roche-sur-Yon, à côté de La Roche-sur-Yon, qui était un passionné de polar, François Brault, et qui avait créé une maison d'édition qui s'appelait La Loupiote. Et qui avait édité ça. Le livre a été racheté par Gallimard, et après ça s'est enchaîné. J'ai eu plein de sous de plein d'éditeurs, ce qui fait que j'ai pu démissionner de Libé avec plein de sous d'avance, et je travaillais un peu pour la télé, pour le cinéma, pour la BD, j'ai essayé de vivre professionnellement de ma plume pendant longtemps, j'y ai réussi pendant 6-7 ans à peu près, et puis mon petit commerce a périclité, et je suis retourné dans le rang, et j'ai fait des tas dans la com, etc. Et une bonne crise, une bonne dépression nerveuse, une première, une deuxième, j'ai arrêté d'écrire et voilà. Et je m'y remets que depuis l'année dernière. Ouais. Je suis resté là pendant de longues années sans écrire. Entre temps, j'avais écrit une vingtaine de bouquins, donc des tout petits, des plus gros, chez Gallimard Jeunesse, des documentaires, des romans de science-fiction, des nouvelles, des tas de romans. Et alors, la particularité, c'est que je suis un auteur humoristique. Quel que soit le genre littéraire, en littérature générale, en SF, en polar, je pratique une espèce d'humour un peu burlesque, absurde, à l'anglo-saxon. On m'a souvent dit que c'est plutôt un humour à l'anglo-saxon. Voilà. Je ne sais pas quoi t'écoute.
Parfait, parfait, merci. Alors, donc il manque Laurent Fétis. On va attendre, peut-être qu'on arrivera à l'avoir en temps et en heure. Donc je vais proposer à Alex qu'on rentre un petit peu dans le contenu des livres, hein, plus particulièrement. Et donc Alex, je te laisse présenter un petit peu donc Harry Dickson. Et puis commencer, voilà, on va vous donner un peu le pitch, comme on dit chez nous, hein, donc un petit peu le contenu, voilà, un petit peu le détail de la quatrième de couvre, mais voilà, un petit peu plus détaillé, avec voilà, le coup de cœur, la prose qui va avec, hein, parce que quelle prose. Et Alex, voilà, je te laisse la parole.
Déjà pour commencer, je présenterai Harry Dickson plus tard, mais je tenais à dire à Jérôme que pour l'instant il y a 4 romans qui sont sortis chez Elios Noir, dont j'ai lu les 4, et les 4 sont juste excellents. Voilà. Donc c'est assez rare pour être souligné. Pour une petite maison non parisienne, c'est vraiment de la qualité. Voilà.
Donc, ouais. Je précise qu'Alex lit en moyenne 5 ou 6 romans polars par semaine. Donc quand il vous dit que ces 4-là, ils sont bons, c'est que c'est vraiment bon.
Alors, je m'occupe du monde policier dans cette librairie. Et un jour, Jérôme vient me voir en magasin pour me proposer le service de presse de Harry Dickson, volume 1. Et à sa grande surprise, je lui ai avoué mon incompétence. Je ne connaissais pas Harry Dickson. Alors, il y avait 2-3 clients qui étaient autour de moi qui m'ont dit « Oh, vous ne connaissez pas Harry Dickson, c'est possible, quelle honte !» je ne connais pas Harry Dickson. Ouais, ça a été publié en bande dessinée et tout. Donc, je ne voulais pas me faire bête. Donc, voilà, donc j'ai commencé, j'ai découvert Harry Dickson par Elios Noir. Donc, ce livre contient 5 courts romans. Ce ne sont pas des nouvelles, parce que des nouvelles, on ne fait pas non plus des longues nouvelles, ce sont 5 courts romans qui ont déjà été publiés au Carnoplast et que donc, Robert Gardel a réuni dans ce recueil. Donc en fait, comme le disait Robert, Harry Dickson, c'est le détective de l'étrange. C'est-à-dire que il a le style un petit peu de Sherlock Holmes, sauf qu'il est confronté souvent à des criminels un petit peu pas tout à fait humains, notamment dans la deuxième nouvelle. Donc, je ne vais pas dévoiler la fin, mais effectivement le personnage principal n'est pas vraiment humain, et c'est une grande surprise pour moi, parce que je suis un grand fan de Conan Doyle, et du coup je suis devenu un grand fan d'Harry Dickson. Donc moi ce qui m'a le plus marqué, et ce qui m'a le plus impressionné dans Harry Dickson, c'est le style, en fait, le style littéraire. Vous êtes imposé un style spécifique, ou parce que moi, je n'ai jamais lu les Harry Dickson de Jean Rey, donc je ne peux pas faire de comparaison. Est-ce que c'est un style, alors, très fleuri, très complexe, même avec des mots, du vocabulaire qu'on n'emploie plus du tout de nos jours? Est-ce que c'est une contrainte, ou est-ce que c'est ça vous est venu naturellement?
C'est un hommage, enfin c'est un clin d'œil à la manière dont Jean écrit, qui écrit de manière très assez précieuse, avec un vocabulaire très très pointu. Il y a beaucoup de choses, on aurait presque besoin d'un dictionnaire par amusement pour connaître le sens du mot, mais le dictionnaire n'est pas utile, puisque dans la phrase coulée, le mot se comprend. Alors, c'est un hommage à ça. C'est pas simplement. C'est beaucoup mieux écrit que Conan Doyle. On appelait ça de l'écriture blanche. C'est-à-dire qu'il n'y a rien entre l'histoire et le lecteur. Alors que pour Jean Rey, c'est un peu différent. Et j'ai poussé le truc un peu plus loin. C'est que j'ai inventé des mots précieux que j'ai cachés dans les mots précieux que les gens ne connaissent pas. Donc il y en a certains, en allant chercher dans les dictionnaires, on ne les trouvera pas. Déjà, ou il y en a d'autres, par exemple, à un moment dans une histoire, il va... Bon, l'histoire, elle est simple, c'est un monsieur qu'on retrouve coupé en deux, dans une maison coupée en deux, comme les plans des architectes. Et donc, moi, je pars de la contrainte pour écrire l'histoire. Donc, le dessin auquel je suis parti, c'était, ça représentait cette scène. Donc, j'avais besoin d'une explication rationnelle là-dedans. Donc, j'ai été chercher dans un dictionnaire des formes littéraires. Et j'ai trouvé un hypotypiste. C'est un hypotypiste, ça n'existe pas vraiment dans la vraie vie. C'est une formule, c'est une figure de style. Je m'en suis servi simplement comme d'un un truc de théâtre. Voilà, c'est ce genre de bêtises qui m'amuse.
Je suis en train de chercher justement une phrase qui m'a marqué. Personne ne s'exprime comme ça.
La contrainte de départ, en fait.
Non, j'arrive pas à retrouver la phrase.
Parce qu'elle était bien trouvée.
T'en inventes une.
J'ai pas ce talent. Mais c'est vrai que ce style, effectivement, très, très ampoulé, très, très, très fleuri, on est dans un univers extrêmement, parfois, et très, très étrange. Et la façon de s'exprimer des personnages, détend vraiment l'atmosphère, parce que le lecteur, moi, je me suis marré là, c'est certains moments, mais vraiment. Quoi. Alors au début, je savais pas trop comment le présenter, parce que je me suis dit, si ça se trouve, il a pas fait exprès d'être drôle, et en fait, c'est son véritable style, et il va se vexer. Donc je suis content d'avoir eu raison sur le coup. Mais au-delà de ça, effectivement, ce qui est très 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 intéressant, c'est qu'on est vraiment dans ce qu'on appelle le whodunit à l'anglaise, c'est-à-dire donc du Conan Doyle, du Agatha Christie, etc. C'est vraiment le détective, l'archétype en fait du détective privé qui va au secours d'une police absolument inepte. Est-ce que c'est ça au départ qui vous a plu chez Harry Dixon?
Oui, enfin ça c'était la contrainte de départ, c'est il y a Harry Dixon, donc qui joue le rôle de Sherlock Holmes, il habite au 92B Baker Street, et non pas le 221, parce qu'à l'époque, Baker Street s'arrêtait au 92B. Donc Conan Doyle a tout faux sur ce truc-là, mais il ne faut pas lui dire. J'ai mené ma petite enquête.
C'était ma question.
Voilà. Et vous pouvez la reposer, j'aurai peut-être une autre réponse. Et donc il est aidé, bien sûr, comme Sherlock Holmes est aidé par le Dr Watson, Harry Dixon, il est aidé par Tom Wills, c'est-à-dire un jeune dont on ne sait pas où il l'a récupéré, tout ça, à chacun d'inventer l'histoire et tout ça. Et le jeu entre les deux, c'est que j'ai toujours trouvé Harry Dixon très hautain, dans sa, même comme Sherlock Holmes, qu'en fait, il garde pour lui les explications qui seraient nécessaires pour la bonne intelligence de l'histoire. Et donc ça énerve énormément Tom Wills. Donc ils s'envoient des pics tous les deux d'une manière assez... c'est assez acéré, ça. Tom Wills doit être énervé comme le lecteur est énervé face au mystère qui est maintenu mystère, alors qu'il suffirait de dire, toi, regarde ça, et c'est bon, ça fonctionne. Voilà le côté humoristique du truc, entre guillemets, qui fait marrer quand il y a des échanges. Au niveau de Scotland Yard, ils sont Scotland Yard est représenté par le superintendant Goodfield, et comme tous les policiers de cet environnement-là, il veut faire, mais il comprend strictement rien. Il ne comprend absolument rien. Il a quand même des éclairs par moment, et ce qu'il fait, ça peut servir. Mais en plus, Harry Dixon le maintient beaucoup plus que Tom Wills dans l'ignorance. Il n'arrête pas de se moquer de lui, de lui donner des fausses pistes, de lui présenter quelqu'un qui a plus de tête. Après lui, faut aller trouver la tête. Mais où est la tête? Sur le monsieur. Enfin, qu'est-ce qu'il y a dans la tête et tout ça? Il est perdu au bout de phrases. Voilà, c'est ce genre de jeu. Et il y a, à la place, elle s'appelait comment, Mrs. Hudson, là, qui est... La gouvernante, là, c'est Mrs. Crone, en fait, qui fait des choses à manger très bon, des scones, des trucs comme ça. Je pense que je vais faire un fascicule avec toute sa recette de cuisine. Voilà, pour les... Mais ça, c'est les personnages obligés, en fait, de ce genre de récit. Voilà, mais c'est... Après, pour l'insuffler de la vie et puis s'amuser et sortir des sentiers battus, c'est là où est l'amusement.
Harry Dixon connaît tout dans la troisième nouvelle ou la quatrième histoire. Il reconnaît sur le visage de la servante d'un oui voilà que c'est, elle a un tatouage qui correspond à une aristocrate du Nil perdue au milieu de je sais pas où. Un truc.
Par contre, dans une autre histoire, c'est Harry Dickson lui-même qui se fait tatouer le visage par un singe savant qui vient d'îles assez lointaines. Et là, il est un peu perdu parce qu'il n'arrive pas à lire ce qu'il sur lui. Et il y a aussi Fascicule Jack, c'est-à-dire un copain à Tom Wills. Ils ont fait les guignols dans un bateau qui venait de Bruges, ou de Gand, je ne sais plus. Et Tom Wills s'échappe alors que son copain se fait attraper. Et on le retrouve quelques jours plus tard avec le visage complètement, complètement tatoué. Et on l'appelle depuis Fascicule Jack parce qu'il doit avoir une histoire sur son visage que personne n'est en mesure de déchiffrer. Voilà, les amusements.
Et ce qui est bien, c'est que enfin, moi j'ai beaucoup aimé la dernière histoire, en fait. Je sais pas comment vous avez choisi l'ordre de publication dans le recueil, mais la dernière histoire s'appelle Harry Dickson s'amuse. Et c'est, à mon avis, c'est la plus réussie. On termine en apothéose avec tous les ressorts possibles et imaginables du roman policier à l'anglaise populaire. Ouais.
Oui, en plus, celle-ci, je ne suis pas parti d'une couverture, c'est un inédit fait pour cette magnifique collection Helios Noir. Et en fait, ça vient de l'année dernière, j'étais invité à un salon dans un truc où il y a des fleurs, des plantes et tout ça, un jardin botanique à Caen. Et c'était un truc fait sur Gustave le Rouge, Maurice le Blanc et Gaston le Roux. Chacun avait sa pièce avec des décorums et tout ça. Il y avait des artistes qui racontait qu'il faisait des lectures de tout, et je me suis basé sur ce moment-là pour écrire cette histoire. Donc j'étais en liberté totale, là. Je n'avais pas d'autre contrainte que de m'amuser. Et Harry Dickson aussi. Voilà. Et j'ai découvert qu'il y a une araignée, l'araignée venimeuse la plus haute qui peut piquer à 4000 mètres d'altitude, et tout ça. C'est des choses amusantes. Voilà. Et il y avait la fanfare squelette aussi.
Ok, merci Alex. Est-ce que alors on va continuer effectivement. Alors encore une fois sur il y a cet intérêt. Alors je voudrais revenir sur ce que vous avez évoqué. Donc Robert Darvel n'est pas votre nom. On a évoqué ça aussi avec d'autres auteurs qu'on a reçus sur cette envie, pourquoi on change de nom, pourquoi on a cette envie à un moment donné de ne pas présenter son nom. C'est une discussion qu'on a eue lors d'un déjeuner, tous les deux, où effectivement Jérôme me faisait part donc d'une de ses auteurs actuelles qui est une femme et qui lui demandait écoute, moi je voudrais un nom masculin sur mes livres, et du coup te tanne un peu pour que tu acceptes de lui mettre un nom masculin alors que tu voudrais que il puisse publier en son nom propre et en son nom de femme. Et donc oui, ça peut être un jeu de mots sympa. Et c'est vrai que c'est intéressant, du coup. Alors, d'abord, Jérôme, du coup, ton avis sur ce sujet. Et effectivement, après, une réponse pour Monsieur Darvel.
Alors, moi, je ne suis pas auteur, et puis je ne m'appelle pas Jérôme Toilette ou Romain Trompette, tu vois. J'ai le nom le plus simple du monde, donc c'est assez facile du coup de le revendiquer, donc ça c'est facile. Il y a effectivement des auteurs qui, pour des raisons professionnelles, préfèrent prendre un pseudo. Voilà. Il y a des auteurs, parce que c'est un rapport très intime à l'écriture, qui préfèrent changer de nom pour s'afficher en tant qu'auteur. Là, Isabelle, c'était plus des peurs qui étaient liées en se disant... Elle avait peur qu'en s'affichant auteur féminin, auteur femme... Il y a un machisme des lecteurs qui fasse qu'elles vendent moins que si elles s'appelaient Robert, par exemple, des choses comme ça. Donc ça, c'est des discussions qu'on a avec elle. Je pense que c'était une erreur, donc on a eu des discussions, et finalement, elle s'appellera bien Isabelle sur la couverture. C'est cool. Et puis parce que c'est des choses, nous, on n'a jamais trop fait attention à savoir si le genre, le sexe de l'auteur allait vendre ou pas. Donc on ne s'est jamais trop posé la question... c'est comme ça, mais oui, il y a un rapport, mais Robert en parlera mieux que toi. Francis, c'est ton vrai nom ?
Ouais. Je pensais à Fred Vargas. Fred Vargas, c'est un pseudo, en fait. Vargas, c'est le nom de sa sœur. Et je crois. Ouais. Et c'est parce qu'elle ne voulait pas avoir d'ennui à l'époque, à ses débuts au CNRS. Parce que ça aurait été très mal vu pour une scientifique, parce que vous savez, elle est chercheuse en paléo-histoire. Et ça aurait été très mal vu. pouvait avoir une activité comme le roman noir, qui est vraiment un truc qui s'en souffre. Quoi. Bon, maintenant, et donc, elle a publié sous ce nom un peu différent.
On a dans l'histoire de la science-fiction une auteure qui s'appelle Julia Berlanger, qui s'est appelée Gilles Thomas pendant longtemps, pour des histoires de sexisme. Alors, dans le monde de l'imaginaire, je pense qu'on est passé au-delà de tout ça, heureusement, mais c'est un rapport très intime, finalement, à ce qu'on écrit et à ce qu'on expose.
Moi,
le meilleur pseudo en science-fiction française, c'était Roland. Ouais. Roland Wagner, qui a commencé sous le pseudo de Red Def. Et c'était déjà tout un problème.
En fait, j'ai fait un truc rigolo, c'est que je publie aussi sous un pseudonyme féminin. Je suis aussi Irène Maubreuil. Et des fois, on écrit à quatre mains, Robert Darvel et Irène Maubreuil écrivent tous les deux ensemble. Et ça, c'est venu déjà pour m'amuser. Non, mais c'est tout ça.
Toi, tu vas chez le psy, tu payes 6 séances.
c'est le psy qui vient à la maison.
Ça, à ce niveau-là, oui.
Non, Irène Maubreuil, c'est aussi un personnage de Gustave Leroux, donc c'était pour m'amuser. Et à la base, c'est parce que j'avais proposé un texte à un copain, enfin, à quelqu'un qui allait chez Malpertuis, édition Malpertuis, Christophe Thiel, et il m'a pris le texte, mais je voulais m'assurer qu'il me l'ait pris pour d'autres raisons que parce que j'étais un copain à lui. Donc je lui ai envoyé un texte d'une autre boîte mail, etc., signé Irène Maubreuil. Il l'a pris aussi. Donc voilà, c'est Irène Maubreuil est née à cause de lui. Voilà, c'était juste pour ça. Et maintenant, Irène Maubreuil a une belle carrière devant et derrière aussi.
Ils vont se marier.
Oui, il y a un texte là-dessus.
Ok, bon, effectivement, donc c'est toujours intéressant de développer.
À la base, c'est de s'amuser. Quand même.
On l'a bien compris, et ça vous réussit bien, vous avez bien raison. Alors, la santé par les plantes. Alors, voilà, Alex rigole d'avance. Alors, comment vous dire? Sur le mur, là, sur ma gauche, on avait fait tout un mural rempli donc avec la collection Ilos Nord pour mettre en avant notre événement. Et... réaction des clients, ah ouais, quand même, les couvertures, c'est, voilà, c'est, il n'y a pas de doute, quoi, c'est, on est bien dans le sujet. Et voilà, je vous la montre, hein, donc, elle est magnifique, c'est, enfin, je sais pas si, c'est vraiment...
Je vais contacter justement l'auteur de la couverture pour lui acheter, c'est une de mes plus belles couvertures.
Hein. Ouais, c'est vraiment, moi j'adore, c'est pour nous c'est de l'humour 15e degré, c'est voilà. Et nos clients réagissent forcément de dire ah, quand même. Et alors, comment on présente la santé par les plantes quand on a nos clients qui sont devant le mur? Et donc tout simplement, vous aimez le polar, vous en lisez certainement beaucoup, mais ça vous avez jamais vu ça. Jamais. Une histoire qui n'est pas classique, hein. On n'est pas sur un meurtre, une enquête qui évolue. On est sur quelque chose qui s'enchaîne, qui est vraiment... on se marre à chaque page, c'est complètement décalé. Franchement, c'est fabuleux. Moi, je suis ravie de vous avoir découvert. J'adore, j'ai adoré. J'ai pas dormi beaucoup pendant certaines nuits parce que je voulais absolument avancer ma lecture. Je me suis couchée très tard pendant une paire de nuits pour pouvoir avancer. Et la santé par les plantes, c'est juste magnifique, c'est inclassable, c'est en polar, mais c'est de l'humour noir, c'est de l'humour cynique, c'est juste, c'est inclassable. Merci de nous proposer ça parce que ça fait du bien de sortir un peu des sentiers battus. Et merci pour la couve parce que rien que pour ça, on peut en discuter beaucoup. Et ça, c'était vraiment sympa. Alors le pitch, comment on le présente? Tout simplement, un journaliste qui va se retrouver au cœur d'une enquête. Donc il y a vraiment ce schisme entre la police qui mène une enquête et qui piétine.
Je confonds.
Ouais, excusez-moi. C'était un jeu. C'était, ouais.
C'est la
constipation. Si
Francis, c'est la constipation.
Oui, pas de souci, je reprends. Donc comment on présente la santé par les plantes? Tout simplement, pareil, une histoire qui part un peu d'une... d'un espèce d'escroc qui est juste très malin, qui va vous faire prendre des vessies pour des lanternes, vous faire croire que, enfin, il va faire croire aux personnages et aux personnes qu'il croise que il a la solution à un problème fort inquiétant, enfin en tout cas pour la personne concernée, puisqu'une constipation est en cause. Et c'est vrai que voilà, ça part, on cherche un arbre, on part à l'autre bout du monde, on est avec des écolos complètement barrés, on fait sortir de prison, ils courent après un arbre, on essaye de... Voilà, on croise des personnages qui sont hauts en couleur, avec un détective pour les jardins botaniques, qui en fait enquête sur les vols de pelouse en Angleterre, qui va de court se retrouver dans cette histoire. Il y a plein de personnages, c'est fabuleux, il y a pas de mots, enfin moi j'ai pas assez de mots pour le décrire, et à chaque fois je disais aux clients, vous n'avez jamais lu ça, vous n'avez jamais lu ça. Est-ce que vous avez envie de nous, voilà, je vous laisse la parole, parlez-nous.
Ce que je voudrais dire, c'est que à Scotland Yard, il y a un département pour les vols de, les vols de d'arbustes, et vous savez que la botanique, les jardins et les pelouses et tout ça, c'est important pour les botaniques. Alors, c'est quand même une émission, c'est quand même... En Grande-Bretagne, nous, avant le journal de 20h, il y a des, je sais pas, des tirages du loto. Eux, ils ont des conseils pour quand même tailler les tomates. Quoi. Et il y a, alors, je ne sais pas si ça existait encore, mais à l'époque où j'écris le roman, il y avait vraiment un département pour les vols de pelouse, les gens qui piquent les carrés. Et c'est d'ailleurs le sujet d'un film de Ken Loach, où il y a un type qui pique de la pelouse et qui revend des carrés de pelouse. Et donc, il y avait des inspecteurs spécialisés en botanique à ce moment-là. Donc ça, c'est vrai. Sinon, l'histoire, qu'est-ce que je peux raconter, c'est que un jour, j'ai lu un article, je travaillais à Libé à l'époque, il y a un article qui paraît dans Libé, qui explique que il y a un arbre qui s'appelle la Locus varina portuensis, il n'y a que son nom latin, il n'y a pas d'autre nom, qui était un arbre en Australie, qui est un arbre, vous savez, comme les noix, qui font un mâle et une femelle. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, DLD optique, je ne sais pas comment, bref. Et cet arbre, il ne restait plus qu'un mâle, non, une femelle qui était en fleur, non, un mâle, il ne restait plus qu'un mâle qui était dans les jardins royaux britanniques et on n'avait plus de femelles, et donc ça veut dire que l'espèce allait disparaître. Et puis il y a un botaniste, donc l'article expliquait qu'il y a un botaniste qui prend sa voiture, qui passe en voiture dans les quartiers résidentiels de Melbourne, ou je ne sais plus, et qui s'arrête à un feu rouge et qui s'aperçoit que dans le jardin d'un particulier, il y avait une femelle en fleur. Donc, branle-bas de combat, les botanistes des jardins royaux australiens viennent chercher l'arbre et puis arrivent à faire se reproduire, enfin à polliniser les deux arbres et à faire des graines et à garder les graines en attendant qu'on puisse un jour développer davantage cet arbre. Donc, juste l'article est un peu ahurissant. Et je me dis, ben voilà, en fait, tout le monde s'en fout, il y a un arbre qui va disparaître, tout le monde s'en fout, sauf si cet arbre, il avait des vertus particulières. Donc je me dis, mais qu'est-ce du plus grand marché, vous savez, c'est la drogue, les armes, les télécommunications, l'énergie et les médicaments de confort. Hein, donc la pharmacopée. Et donc, et parmi les médicaments de confort, hormis Viagra, ça va être un problème qui concerne toute l'humanité qui travaille au bureau, ça va être la constipation. Bon, voilà, j'en ai peut-être ces réflexions profondes. Et je me suis dit, donc si la Locus varina portuensis permettait de synthétiser un médicament de confort formidable, donc un laxatif particulier, c'est un marché formidable. Donc s'il restait plus qu'un arbre en pot, tout le monde voudrait, d'un seul coup, cet arbre dont tout le monde se fout, les mauvaises herbes, il aurait une valeur incroyable. Donc je me dis, voilà, j'ai un sujet complètement débile pour faire s'agiter des personnages qui vont courir dans les rues et se poursuivre et se tirer dessus avec en portant un arbre, voilà, un arbre dans un pot. Donc je suis parti de ça et sachant que donc ça permet de synthétiser un médicament qui s'appelle le Socochimol à effet retard, donc est-ce qu'on peut gérer son temps, mais ça reste de bon goût, je crois, j'espère.
Non, rassurez-vous, ça reste de bon goût. Il y a aussi donc beaucoup d'humour dans le choix de certaines situations, dans le choix des noms des personnages, parce que je pense que les choix ne sont pas faits au hasard. Donc on a deux entités, hein, deux sociétés qui sont donc leaders du marché du médicament. Donc on a d'un côté la vie saine avec Franz Albert Zahn, et de l'autre côté on a Gatsby le Grand, qui est donc la personne constipée en question. Et lui, sa société s'appelle Oppo, O-P-O. Voilà, donc ça reste de bon goût, mais c'est juste magnifique, c'est bien trouvé, donc nous on a bien ri avec Alexandre. Et alors, parlez-nous un petit peu de vos personnages, surtout voilà, ce choix de nom. Et vous voulez bien prononcer le nom du biochimiste, parce que...
C'est... Oh là là, longtemps. que je n'ai pas relu.
Alors, je vous donne.
Zénodore de glace.
En fait, non, en mais il y a le début quand même.
Parce que je suis d'origine polonaise, moi. Donc, je ne sais plus le prononcer comme mon grand-père le prononçait. C'est. Vacheslav. Je ne sais plus le prononcer. Vacheslav. Il s'est fait exprès pour embêter les gens.
Oui, je sais bien.
Ça marche bien. Même sur la terre, c'est ça qui est fort.
Et. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ce roman, qui est quand même du grand n'importe quoi, burlesque, est en fait basé sur plein de choses qui sont véritables qui ont été à l'époque. Et je raconte l'histoire d'une escroquerie qui a eu lieu en Inde, où un prétendu chimiste indien dit « j'aurais à synthétiser du carburant à partir de pétrole, à faire du pétrole à partir de plantes de la montagne ». Et donc le gouvernement indien dépense des fortunes pour lui payer ça. Et en fait, c'est un escroc qui avait complètement enfumé tout le monde, un peu comme nos avions renifleurs sous Giscard ou je sais pas quoi. Et donc ça, c'est voilà, il y a plein d'histoires qui étaient. Et en fait, j'avais inventé la suite. Comment le chimiste dans mon roman, je l'avais intégré dans mon roman. J'avais inventé la suite. Et quelques mois après, ce que j'avais écrit, exactement ce qui s'est passé. Et donc il y a plein d'allusions aussi qui sont liées un peu à l'époque et des clins d'œil, voilà. Donc, la vie saine, parce que je crois qu'à l'époque, Bernard Tapie devait avoir des démêlés avec son entreprise de la vie saine, ou je peux considérer la vie claire, c'est clair. Donc voilà, puis bon, les noms des personnages. Alors des fois, moi, les noms de personnages, je m'arrête d'écrire, je regarde ce qu'il y a autour du bureau, et je vois un nom, une marque, et hop, il s'appelle comme ça. Donc, c'est pas... Et il y a des fois, c'est voulu, puis des fois, non, c'est n'importe quoi. Il y en a beaucoup qui portent des noms d'auteurs de science-fiction détournés parce qu'il y avait une bibliothèque de science-fiction pas loin. Donc,
Ok, ça c'est toujours intéressant d'avoir le pendant hein, des choix qui sont faits dans les livres. Alors, il y a un personnage, Alex, je vais te passer la parole, c'est celui du pompiste. Alors, le pompiste, il est juste il est magique, celui-là. Et alors, les points cadeaux à pompe à essence. Ça, je ne sais pas où vous êtes allé le chercher. Alors, j'imagine qu'il y a eu une période où, effectivement, il y avait toutes sortes de points. Voilà.
Ça a été écrit à l'époque.
Mais alors, ça, c'est énorme.
Les stations-service distribuaient des points cadeaux, tout le temps. Et donc, pour la première édition, c'est la quatrième édition, ce livre. Hein, il a été édité quatre fois. Le premier éditeur, j'avais récupéré plein de points cadeaux et je donnais un point cadeau avec le livre aux gens qui me l'achetaient. Donc il y a des gens qui ont des super collecteurs, parce que je reportais le numéro du point cadeau sur le livre. Mais oui, c'est parce que ça me faisait marrer cette histoire de point cadeau.
En tant que journaliste, il a beaucoup roulé en fait.
Ça me faisait marrer cette histoire de point cadeau, je trouvais ça absurde, les points cadeaux. Et donc oui, il y a un pompiste fou qui, en échange de points cadeaux, promet des lots complètement délirants. Et voilà. C'est difficile à raconter parce que c'est... Bon, c'est un peu n'importe quoi, quand même,
non ? Non, mais c'est juste... Non, c'est énorme, parce qu'on est dedans, on est... Alors, on n'est pas tous de la même génération, mais voilà, il y a eu effectivement ces points où, enfin, du coup, on essayait de chercher la pompe à essence dans laquelle on allait pouvoir avoir les points pour avoir le cadeau. Là, les cadeaux, ça peut être un troupeau de moutons, une vache, où il y a un fauteuil surdimensionné, ça rentre pas dans la voiture, alors que il y a les deux personnages qui sont en train de courir après l'arbre, qui a été piqué par les deux uluberlus écolos verts, donc ils veulent leur... Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Ils s'arrêtent dans la même station essence, parce qu'ils veulent... ils y tiennent, alors ils ont fait le plein. Le plein, ça leur a coûté une blinde, ils le veulent, leur fauteuil. Donc en fait, ils s'arrêtent, ils reviennent chercher le fauteuil, sauf qu'ils vont croiser l'autre équipe qui cherche aussi les arbres. Et là, au milieu de ça, il y a le pompiste, parce que le pompiste, lui, il n'est pas tout à fait net non plus, hein, effectivement. Et il a vraiment un rôle clé parce qu'à la fin, il fait vivre un enfer à ce biochimiste. Et voilà, c'est fabuleux ce passage-là, franchement. On en a beaucoup parlé avec Alex.
C'est un passage qui m'a posé beaucoup de problèmes. Et donc, il a été édité chez son premier éditeur. Et après, il y a Patrick Rénal, donc de la série Noire, qui vient, qui dit ouais, je te le rachète et tout. Est-ce que tu peux regarder un coup avant qu'on l'envoie pour le réédite? Et là, je le relis. Et je m'aperçois que, parce qu'il y a une valse entre 4-5 voitures, enfin, tout le monde se croise dans la station de service, je me suis aperçu que j'en avais oublié une. Il y a des personnages qui arrivent et on ne sait pas ce qu'ils viennent. Et comme ça gigote beaucoup, tous les lecteurs, personne ne l'avait vu. Il y a quoi qui l'a vu. Je me suis dit, oh là là, il manque des trucs. J'étais obligé de réécrire toute cette scène parce que j'avais oublié. Il y a des personnages qui arrivent et puis on n'en parle plus. Et j'étais obligé de tout reprendre. Et personne ne l'a vu. Donc, ça, dans la première édition, personne ne l'a vu. Et,
Il y a un autre point, c'est sur... Oui, vas-y Alex, bien sûr.
Il y a aussi des chapitres qui semblent encore plus absurdes que l'histoire elle-même. C'est l'histoire du perroquet crête rouge et des touffes sous les ailes. Et également le drosophile lubrique, le bousier lubrique. Ces chapitres-là, il faut quand même les lire parce que c'est quand même important. On les retrouvera dans l'histoire parce qu'ils jouent un rôle très très important, notamment ce fameux ethnologue Castagny.
Il faut expliquer comment les choses se font. Alors, c'est pas toujours très glorieux, c'est-à-dire que j'avais pas beaucoup de temps pour écrire ce roman. Donc je l'ai écrit en 8 jours. La première version, je l'ai écrit en 8 jours. Donc j'ai fait ça 12 heures par jour, se ranger le midi, etc. Donc j'ai écrit ce qui passait par la tête et au fur et à mesure que ça se déroulait. Et puis autrement, j'ai écrit un chapitre, deux chapitres. Je savais en gros où je voulais aller, etc., ce que j'allais raconter. Mais un chapitre, deux chapitres, puis le troisième jour, chapitre 3, je commence à raconter l'histoire d'un perroquet dans la jungle. Ça n'avait aucun rapport. Et comme j'avais le temps de presser, parce que l'éditeur, j'avais pris beaucoup de retard, je lui avais promis, oui, j'ai écrit, mais j'avais rien écrit du tout. Et donc il fallait que je lui rende à la fin de la semaine, en tout cas une première version. Donc j'avais, chaque jour, c'était, il fallait que ça soit un ou deux chapitres, j'avais pas de temps. J'aurais eu du temps après, une fois que j'ai envoyé le manuscrit, il l'aurait lu, il l'aurait renvoyé, je pouvais tout reprendre, tout recorriger, tout améliorer. Il fallait que je lui donne une version. Mais j'avais pas de temps. Donc troisième chapitre, je commence à partir sur un... Je sais pas ce qui m'est arrivé, à raconter la vie d'un perroquet dans la jungle et tout. Ça n'a aucun rapport avec mon histoire. Et là, je me suis dit, une fois que j'ai fini ça, je me relis, puis je me dis, qu'est-ce que t'as fait? Je me dis, bon, je vais m'imposer comme contrainte que tout ce que j'ai fait, ça me resservira à la fin. Et j'ai continué comme ça. Du coup, après, j'étais obligé de raconter les histoires d'un ornithologue qui s'appelle Oliver Castagny, qui va être prisonnier d'Indiens, qui s'appelle les Indiens Macroca. Et il fallait que je me démerde à la fin pour que ça finisse avec mon histoire, que ça colle avec mon histoire. Donc j'ai réussi, je pense. Et le truc qui est marrant, c'est que la bibliothèque des littératures policières à Paris a fait rentrer à Imourcy. Donc le perroquet, c'est le perroquet vert à deux crêtes et tout fouche sous les ailes. Donc c'est une espèce à qui la nature a compliqué la vie pour se reproduire, et surtout pour se reproduire. Le pauvre perroquet, il lui arrive plein de trucs compliqués pour se reproduire, et c'est un peu son objectif. Et donc la Bilipo, la Bibliothèque des littératures policières à Paris, qui éditait un gros annuaire des crimes, des armes, qui fait un gros travail encyclopédique, a fait rentrer le perroquet vert dans l'encyclopédie. Et voilà, et surtout les gens m'ont tellement parlé de mes Indiens Macroca, qui n'ont strictement rien à voir a priori avec l'histoire, que par la suite j'ai écrit deux autres romans et j'en suis en train de faire un gros énorme, toujours avec les Indiens Macroca, parce que les Indiens Macroca, les Indiens Macroca. Voilà. Et tout ça en fait c'est simplement de la tambouille pas toujours très glorieuse d'écrit d'auteur qui fait des choses et puis bah, voilà. Et j'aime beaucoup la littérature à contrainte, et très souvent, plus il y a de contraintes, mieux ça. Non, mais c'est vrai, ouais. On dit que c'est libérateur.
Si vous
mais c'est
avez
vraiment...
plus d'inspiration, il faut que vous arrêtiez de dormir, en fait, c'est ça.
Voilà, mais en revanche, je vais lui demander l'adresse de son dealer, parce que ça a l'air d'être de la bonne. Hein, mais c'est vrai que...
Anthony ou Ivory Carré, hein, c'est pas plus compliqué. Dans l'histoire de la contrainte, c'est bien, parce que... Bon. C'est très bien Elios Noir, mais deux secondes là-dessus. J'ai d'autres personnages que Harry Dickson, et il y a beaucoup d'auteurs que je démarche. Après avoir choisi un titre et une couverture, je fais dessiner une couverture par quelqu'un, je plaque un titre dessus, et après je vais dire à machin qui s'ennuie à écrire ses histoires de trucs et de machin, est-ce que tu veux pas faire une parenthèse et puis écrire l'histoire du singe à deux têtes d'après cette couverture? Et ça les amuse beaucoup, les auteurs, en fait. Ils se libèrent complètement, c'est une vraie création. Ça permet d'aller chercher au fond de leur imagination un truc auquel... qu'ils auraient abordé de manière beaucoup plus rationnelle ou plus lente ou plus construite, là ils lâchent le bouchon et ça donne des choses assez amusantes. C'est très bien la contrainte.
Et pour parler de moi, puis vrai, je ne vais pas que parler de moi, cette histoire de perroquet, c'est un truc complètement fou. Donc en fait, le perroquet, la nature lui a mis des tas de contraintes, il est obligé de vivre en symbiose avec un insecte qui s'appelle le doryphore bousier, etc. Bon. de Dorifort Bouvier Lubric, etc. Donc les interactions entre l'insecte et le perroquet font que le perroquet va arriver à ses fins et arriver à féconder la femelle. Et en fait, des années et des années après, j'en reçois un coup de téléphone d'une scientifique italienne qui me dit, écoutez, je fais partie des groupes de recherche encore sur l'évolution darwiniste et tout ça. On m'a parlé d'un perroquet, donc vous seriez le spécialiste. Je vous jure que c'est vrai. Et on a perroquet, vous seriez le spécialiste. Et alors, ce dont on m'a raconté sur ce perroquet, c'est incroyable, parce que ça correspond totalement à mes théories. Alors là, moi, j'étais super mal. J'ai raconté n'importe quoi. Et donc je me disais, mais cette pauvre dame en face, elle a des théories qui colleraient à ce que je. À ça. Et je me dis, elle est peut-être mal barrée, votre opinion, avec son comité scientifique. Elle était super déçue. Mais voilà.
Oui, j'imagine sa déception. Alors, effectivement, donc, c'est le perroquet vert à deux crêtes et touffes rouges sous les ailes. Je vous prie de croire que c'est cité plus. J'imagine que le copier-coller doit être sympa à ce moment-là, parce que c'est répété plusieurs fois, et je vous assure qu'on ne se lasse pas de se le redire. Donc oui, c'est loufoque, mais ça marche super bien, c'est vraiment efficace. Pour revenir sur la notion de création, donc là c'est la quatrième version, donc c'est ce que vous disiez. À la fin, donc ça nous a beaucoup interpellés avec Alexandre, donc à la fin, il y a une partie qui s'intitule, donc le livre est terminé, et c'est « Réponses aux questions fréquemment posées ». Et c'est pas si courant qu'on a ça donc, à la fin du livre. Donc nous qui sommes libraires, c'est intéressant. Il y a certaines questions que j'aurais jamais osé vous poser, certaines, notamment une ou deux, j'aurais pas pu vous poser ce genre de questions. Mais on se dit, voilà, nous, libraires, on essaye vraiment d'être original, on lit les livres, on essaye vraiment d'en tirer le meilleur du jus, on essaye de faire quelque chose d'interactif, d'intéressant pour les personnes qui ont la gentillesse de venir. Je me rends compte que on a tous la même idée, on essaye tous d'être original, donc qui a eu l'idée en fait de remettre ces questions, alors certaines redondantes, certaines certainement pénibles je pense, parce qu'au bout d'un moment, au bout de 10 fois quand vous avez une question dans une librairie, plus besoin d'avoir ras-le-bol. Et du coup, c'était vraiment intéressant. Et merci pour la contrainte, parce que du coup, il fallait pas qu'on pose celle-là.
Oui, j'ai eu des questions qui sont revenues, régulièrement. Et j'ai eu, c'est un roman qui traite de la constipation, en fait. Et un jour, j'ai une dame, j'étais officiel de la Bastille à Paris, donc c'est un grand festival, il y avait la queue. Chez des auteurs bien plus connus que moi et tout. Et j'ai une dame qui arrive avec un exemplaire tout défraîchi de La santé par les plantes pour se faire dédicacer. Et donc, bonjour à la dame et tout. Et elle s'approche comme ça et elle me dit, elle me dit, vous savez, moi aussi.
Voilà.
Donc je dis, bon, j'ai trouvé mon public.
Et oui, vous, du coup, est-ce que. Alors, je ne vais pas vous demander si vous êtes constipé, rassurez-vous. Est-ce que, il y a dans cet exercice de rencontre auprès des libraires, parce que nous, c'est un exercice qu'on aime vraiment faire, on y met tout notre cœur. Et est-ce qu'il y a un côté redondant, peut-être à un moment donné, surtout là, notamment pour vous aussi, mais le livre a une vie. Et est-ce qu'à un moment donné, on n'est pas fatigué de répondre aux mêmes questions ? Est-ce qu'on voudrait être juste... C'est une vraie question existentielle pour nous.
Il y a deux choses. On doit quand même donner une réponse aux questions de la personne, c'est-à-dire la renseigner d'une manière honnête et tout. Et en plus, c'est comme les dédicaces. Et à chaque fois, on a un petit jeu. On doit inventer quelque chose de nouveau, sinon c'est pas drôle. Donc l'exercice où j'en suis, moi ça fait quelques années que je fais tout ça, ça reste encore quelque chose de très amusant. Il n'y a pas encore de redites, c'est à moi d'essayer d'aller fouiller dans le fond là-bas pour retrouver quelque chose de marrant ou de nouveau.
Vous la rassurez, n'est-ce pas Alex? Alors on va échanger quelques mots, oui.
Je voulais demander à Robert si, et à Jérôme, le tome 2, vous prévu.
C'est prévu pour le mois d'octobre. J'ai donné les fichiers. Il y aura 4 histoires tirées aussi des fascicules. Et la 5e histoire, j'ai tenu à ce que ce soit quelqu'un d'autre qui l'écrive avec moi. Enfin, on avait écrit une histoire à 4 mains avec un monsieur qui s'appelle Brice Tarvel. Parce que en 2008, quand j'ai commencé à faire mes premières Eriksson, j'ai été voir sur le net s'il n'y a pas quelqu'un qui avait eu l'idée aussi de reprendre ce personnage. Bon, je savais que Gérard Dole l'avait fait pour Fleuve Noir et c'est réédité chez Terre de Brume dans les années 90, il avait fait ça. Et au moment où moi j'avais commencé à publier mes affaires, je m'aperçois que chez Malpertuis, un certain Brice Tarvel a repris le personnage de Harry Dixon.
Et c'est un vrai personnage.
C'est un personnage qui existe en dehors de nous. Hein, et donc il lui a fait vivre des aventures aussi chez un autre éditeur. Donc j'avais le choix soit d'aller envoyer des tugs pour qu'il tue Brice Tarvel, comme ça on n'en parlait plus et moi je récupérais le machin. Ou alors de devenir ami. Et on est devenu ami à partir de là. Il m'a introduit dans le milieu de la littérature de genre. Très gentiment. Et donc, à un moment, on a écrit un Harry Dixon à quatre mains, celui qui sera dans le deuxième tome. C'était pour une anthologie où je lui ai dit, ce qui serait marrant, c'est qu'on se mette en scène, nous, Brice Tarvel et Robert Darvel. En plus, lui, c'est pas son vrai nom, moi non plus. Et Tarvel et Darvel, ça fait un peu Dupont et Dupont. C'est venu comme ça. Et donc, la contrainte, c'était chacun notre tour, on écrit un chapitre du truc, et on se met en scène, Robert Darvel et Brice Tarvel. On voyage dans le temps avec une... C'est un canapé qui fonctionne avec de la suce quantique et on se retrouve à une date précise, à un endroit précis de Baker Street et pour un temps donné. Et donc on se précipite tous les deux parce qu'on a un désaccord sur l'âge de Tom Wills, l'assistant de Robert de Harry Dixon. Lui, il en fait quelqu'un de jeune, moi j'en fais quelqu'un d'un peu plus vieux, avec beaucoup de répondants que lui c'est plutôt un abruti qui cogne. Et lui, ça... La gouvernante Mrs. Crowe, chez lui, c'est une énorme femme, alors que moi, elle n'est pas grosse du tout. Donc on a voulu aller vérifier de nous-mêmes ce qu'il en était pour de vrai à cette heure-là. Et on croise Nicolet, en plus, à ce moment-là, qui avait fait toutes les couvertures des rééditions chez Nouvelles Éditions Oswald, des 105 aventures de Harry Dixon avant les autres.
Voilà. Parce que Sherlock Holmes, il y a une société des Holmesiennes, il y a des tas de trucs et tout ça, c'est un personnage. Il y a un Sherlock Holmes dans la Lune qui a été écrit par David Calvo, non? Et il y a aussi une fanzone, enfin pas une fanzone, mais...
Il y a des gens, il y a l'amicale Jean Rey, donc qui est à Gand, qui est patronné par un monsieur qui s'appelle André Verbeaujeune. Oui, Jean Rey a écrit énormément de choses sous énormément de pseudonymes et dans énormément de supports. Et ces gens-là épluchent les journaux d'époque pour retrouver avec le style, avec l'idée qu'ils se sont fait du style dont on parlait d'écriture de genre, ils arrivent à noter que tel texte a été écrit par... Il a fait des bandes dessinées, il a fait de tout. Et donc cet amical genre a récupéré beaucoup d'inédits et s'est battu très longtemps pour qu'on puisse rééditer toute l'œuvre de genre parce que c'était coincé par une histoire d'avocat, d'arrière-petite-fille ou de petite-fille et ce genre de trucs. Ça a été décoincé il n'y a pas très longtemps et l'édition Alma, qui sont patronnées, si j'ai bien compris, par François Angelier de l'émission Mauvais Genre, commence à rééditer tout genre de manière raisonnée, avec explication et tout, avec Arnaud Huffetier et ce genre d'universitaire. Donc il y a une société.
Merci. On va évoquer Nocturne, donc de Laurent Fétis. Donc encore une fois, je vous laisse apprécier la couverture. Donc...
Tout en finesse.
On est bien dans le sujet aussi. Là, il n'y a pas de doute donc, par rapport au sujet. Alex, est-ce que tu peux nous évoquer... j'avais commencé à en parler tout à l'heure. Est-ce que tu peux évoquer le pitch de cet ouvrage où là, on est vraiment là dans un thriller un peu plus classique, mais non moins qualitatif.
Oui, ouais, là on est vraiment dans du thriller très très sombre. L'histoire, en fait, c'est un journaliste qui s'appelle Jean-François Langlais, qui en 1994 à New York a vécu quelque chose d'assez traumatisant parce qu'il a traité une affaire de tueur en série, notamment avec des disparitions d'enfants. Et il a, parce que c'est un très bon journaliste, il a réussi à orienter la police vers le serial killer. Un an plus tard, en 1995, il est toujours journaliste, mais son travail ne lui plaît plus du tout. Il a était en dépression, très très grosse dépression pendant 2 mois. Il a été interné en hôpital psychiatrique d'ailleurs. Et il n'a plus vraiment de goût à la vie, justement à cause des événements qu'il a vécu à New York en 1994. Et son patron lui dit, bah, écoute, c'est plus possible, quoi. Les articles que tu me donnes, c'est de la dope, il faut que tu te remettes en scène. Donc je te propose de faire un reportage où tu veux, etc. Et donc Jean-François propose de retourner à New York pour essayer de trouver un sujet. Et par hasard, il va se retrouver une fois de plus sur les traces d'un serial killer lié à l'affaire de l'année précédente. Et ça va être un véritable cauchemar.
Effectivement, c'est vraiment un ouvrage qui fonctionne très bien. Donc on a cette variation qui est classique, qui est utilisée souvent dans les ouvrages. Donc on passe d'une année à l'autre. Hein, on oscille entre 1994 et 1995 et on avance. Du coup, chaque fois que vous passez d'une année à une autre, vous avez des éléments qui vous permettent de comprendre et d'avancer dans l'histoire. Donc quand on est en 1994, le personnage est décrit à la troisième personne. Donc c'est vraiment un récit du passé. Et en 1995, vous avez vraiment l'anglais qui dit « je », puisqu'il est vraiment là, encore une fois, au cœur de tout ça. Donc on est dans du réseau de prostitution, dans du pawn shop, du sex shop un peu hard, on va dire, dans une ville de New York... Où on y voit un côté sale, négatif, parce que l'anglais revient à New York, mais dans des conditions très particulières, puisque il a été catatonique pendant plusieurs semaines. C'est quelque chose qui l'a extrêmement traumatisé. Et,
il souffre d'impuissance d'ailleurs.
Et y a un moment donné une notion aussi de fantastique qui s'intègre à l'histoire, qui est fait de manière assez fine pour que les polareux, qui ne seraient pas forcément des gens qui apprécient le fantastique, s'y perdent. Donc ça marche vraiment de manière hyper efficace. Alors c'est dommage, je le croiserai tout à l'heure, mais moi j'ai 2 mots à lui dire sur la fin, parce que je ne suis pas d'accord. J'attendais une autre fin, et j'attends surtout une suite. Donc j'aurai l'occasion de lui en toucher 2 mots. Pareil, un bouquin qui vous tient jusqu'à tard dans la nuit, très très efficace, avec le réseau Bizarro, un service en ligne, de discussion pour adultes, ça va bien au-delà, avec des personnages, une espèce de conspiration qui est fortement présente. Donc vraiment un ouvrage qui fonctionne, qui matche bien. Moi j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé. Comme il n'est pas là, Jérôme, je te laisse peut-être la parole si tu as envie d'en parler de ton côté. C'est intéressant aussi.
En fait, moi je suis pareil, c'est-à-dire que je prends ce bouquin-là de Laurent Fétis, le manuscrit, et puis finalement je me rends compte qu'à 2h du matin je suis toujours en train de le lire, et puis que ma liseuse tombe en rade, donc du coup je branche ma liseuse et j'attends, il est 2h du matin comme un crétin, un quart d'heure, que j'en gagne 5% pour pouvoir enfin avoir la fin, quoi. Et donc du coup quand on fait ça en tant qu'éditeur, on dit ça il faut vraiment que je l'édite, quoi. Il y a un truc. Moi ce qui me plaît dans Laurent, c'est toujours un peu comme les polars et les thrillers, c'est qu'on regarde l'abîme, mais que là on la regarde vraiment, quoi. Vraiment en face, il y a vraiment un truc. Il y a cette phrase qu'on a mis en quatrième de couverture, parce que j'adore, parce qu'elle dit tout, quoi. Elle dit « Il lâche la hache sanglante qui tient entre ses doigts et me dit en face, le plus tranquillement du monde, j'ai pris beaucoup de plaisir. » Voilà, j'adore. C'est parfait.
C'est un
mauvais fond,
quoi.
Hein, ouais, finalement, j'ai un mauvais fond. Ouais, mais c'est ça qui est chouette en tant qu'éditeur, c'est que du coup, on peut vraiment publier les bouquins qui nous plaisent le plus. Et autant je me suis marré sur La santé par les plantes, Autant je trouve Nocturne de Laurent Fétis et je me dis faut qu'on fasse ça, en fait, faut qu'on fasse peur jusqu'à tard dans la nuit, quoi. C'est notre job. Juste un petit mot sur la couverture. On a fait une couverture avec une boule dans la bouche. C'est une couverture, les gens s'arrêtent beaucoup dessus. J'en ferai pas un poster pour mettre ça dans mes toilettes ou dans mon salon, hein, on est bien d'accord. que je ne suis pas sûr pour la constipation dans les toilettes ça marche. Mais juste sur le travail d'éditeur, pour ce texte-là, il nous fallait cette couverture-là. Parce que Laurent Fétis, c'est un auteur qui a un petit peu de bouteille. Mais donner une couverture aussi marquante qui fasse que des gens s'arrêtent sur la couverture, eh bien, c'est donner une chance supplémentaire au bouquin. Alors, il y a des gens qui détestent, mais au moins, il y a une couverture qui laisse pas indifférent. Et donc, qui se remarque dans la production globale. Quoi. C'est vraiment, ça fait vraiment partie de notre job. Donc, quand j'ai vu arriver la couverture, c'est pas moi qui ai choisi l'artiste. On a un directeur artistique qui s'appelle Eric Holstein qui nous fait ça. J'ai dit, OK. Il faut y aller, comme le caducé avec les phoques. Quoi. Ok, il faut vraiment qu'on y aille. Quoi.
Monsieur Laurent Fétis, il a une imagination débordante, il a écrit plein de bouquins différents. Donc c'est vrai que là, ça te donne.
Si je comprends bien, parce que j'ai pas vu. Ça donne la tonalité aussi, c'est ça.
En fait, pour vous refaire l'histoire de Laurent Fétis a été le plus jeune auteur édité à la série Noire. Il a commencé à 18 ans, quelque chose dans ce coup-là. C'est quelqu'un qui a eu une grosse production, qui a plein de choses qui ne sont pas du tout éditées, et qui va du polar léger relativement classique au thriller très sombre. Et j'ai même lu des trucs avec des démons, etc. Du sexe, des démons, des trucs assez...
Il a même repris des comics de Marvel.
Ouais, il est... C'est une écriture, c'est un style que j'aime beaucoup, notamment parce qu'il travaille beaucoup ses personnages. On est dedans, il y a une espèce de fluidité de bien écrit qui est très confortable à lire, très agréable, et qui en même temps parfois nous prend par la main et nous fait regarder des trucs qu'on n'a pas vraiment envie de regarder.
J'en ai
lu
quelques-uns, il y a une énergie un peu rock.
Ouais, il y a une énergie assez rock, un peu sombre aussi, de temps en temps. Enfin vraiment moi c'est un auteur que j'aime beaucoup, j'avais lu déjà des, parce que c'est aussi ça, hein, c'est, moi j'avais lu des bouquins de lui il y a une dizaine d'années à peu près, le double gang chez Baleine, qui était vraiment chouette, et parfois il y a un ton relativement léger, le double gang c'est tout à fait ça, un ton assez léger, assez rock'n'roll, assez chouette, donc c'est vraiment un auteur auquel je crois, je pense que c'est quelqu'un qui a des choses à dire, et qu'il y a juste de temps en temps des petites directions à prendre. Mais enfin, j'aimerais bien beaucoup pour toi sortir de quoi.
Juste une chose concernant la couverture. En regardant la couverture, on pourrait s'imaginer qu'il y a de la sexualité toutes les deux pages, que c'est de la sexualité trash, hard, etc. Alors que pas du tout en fait. Il y a très 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 peu de scènes de sexe.
Écrites en tout cas.
Beaucoup sont suggérées. La seule scène de sexe décrite, c'est quand il est sur Réseau Bizarro avec le témoignage d'une nana qui raconte un petit peu comme dans MyPorn ou YouPorn, qui raconte des expériences souvent très très inventées. Donc, c'est justement pour se moquer un petit peu de cette sexualité un petit peu fantasmée, etc. Mais c'est on n'est pas du tout dans 50 degrés. Hein. Ça n'a absolument rien à voir.
Ah oui, c'est-à-dire que si vous voulez pimenter vos soirées, c'est pas en lisant ça, hein, très clairement. Ou alors vous les pimentez, mais une fois, parce qu'après c'est prison. Moi, ce qui m'a bien plu aussi, c'est que ça se passe dans les années 94-95, donc un passé proche. Il y a un passé qu'on a tous connu, mais où on allait à la cabine téléphonique, on n'avait pas de téléphone, où accéder à Internet, fallait qu'il y ait un copain qui éventuellement était connecté au réseau. Et donc il y a une distanciation par rapport au passé, on n'est pas du tout dans des choses plus anciennes, hein. On est vraiment dans un passé très proche qu'on a connu, mais qui est radicalement différent. Quand j'ai lu, ma première réaction, c'est de se dire, tiens, faut peut-être moderniser. En fait, non, faut vraiment le laisser dans son jus, parce que ça donne un autre goût à l'histoire.
Et puis la ville de New York est un personnage à part entière. Il y a des descriptions de New York qui sont vraiment fabuleuses. On est dedans, quoi. Vraiment. Moi qui suis jamais allé à New York, j'avais l'impression d'être chez moi.
On avait prévu de lui demander s'il y avait vécu, mais tu le sais peut-être.
Non, je crois pas. Pas à ma connaissance.
Ouais. Parce que forcément, alors après, une description de ville qui est un personnage principal, c'est toujours intéressant de savoir effectivement s'il y a un côté réellement fantasmé, est-ce qu'à un moment donné c'est un récit de quelqu'un, ou simplement ce qu'on peut en savoir, et en tout cas si c'est le cas, chapeau à lui d'avoir su la rendre comme ça aussi prégnante dans l'histoire.
Je sais pas si... Enfin... T'aurais été Paris ou Bourg-en-Bresse, je ne sais pas si ça aurait eu le même effet. Quoi. Il y a un côté imaginaire américain qui est...
Oui, bah c'est un peu ce qu'on avait déjà évoqué.
C'est
pour
un sujet de débat que j'ai eu il y a 10 ans avec Serge Lehmann, l'auteur de SF. C'est un de ses dada. C'est pourquoi faire un centre commercial américain tout bétonné avec les sacs plastiques qui volent au vent, ça ressemble à un centre commercial français pareil. Quoi, pourquoi le leur ? Il paraît beaucoup plus exotique, où tout est possible, plus mystérieux, plus fantastique. Alors c'est peut-être que l'auteur fantastique nous répond, mais ça c'est un vrai mystère. Quoi. Il y avait un auteur, chez un petit éditeur, un auteur qui s'appelait Eric Tarad, qui avait écrit des polars qui se passaient dans les Landes, où il arrivait à... Je connais Eric Tarad, non, je crois. Des polars qui se passaient dans les Landes, où il arrivait à donner un peu une dimension à l'américaine, une espèce de tonalité indescriptible qui fait que... si je prends une voiture aux États-Unis, c'est pas comme si je prenais une voiture en France. Ouais. Et lui, il y arrivait. Et Lehman, je sais que c'était un truc qui l'obsédait, Serge.
Vas-y, Romain.
Sur Serge Lehman,
non, sur les lieux.
Ouais, moi, j'ai eu le problème avec Londres. Donc, en plus, Harry Dickson, c'est pas trop daté. C'est entre deux guerres, mais des fois, ça pourrait même être avant la Première Guerre mondiale. Et Londres, j'avoue que j'ai été faire des repérages précis pour savoir si les personnages se déplacent à pied d'un endroit à un autre, si c'est possible, en combien de temps. J'étais parti là-dessus. Donc, il y a une structure, c'est le Londres qui existe, enfin, qui existait entre 1920 et 1930. Mais mon Londres à moi, il y a des morceaux de n'importe où dedans. Il y a la fosse d'Yonne à Tonnerre, par exemple, en Bourgogne, là où habite Joselon, un illustrateur. Elle est à Londres. Il y a des endroits, il y a des montagnes, c'est à Londres. J'ai composé un Londres avec tout un tas de choses sur une grille préexistante. J'ai mis des tas d'éléments qui ne sont pas à Londres. Et je m'amuse à chaque fois, c'est que le 92B, quand on redescend vers le zéro, à chaque épisode, la rue qui est à l'angle, c'est une rue différente. Elle a un nouveau nom à chaque épisode. Pour donner un petit truc à l'auteur qui irait sur la carte voir si les déplacements sont possibles. Ok, c'est plausible, mais la rue là, déjà, c'est pas la même que la dernière fois, et en plus, elle n'existe pas.
Donc là, c'est la réécriture imaginaire d'un territoire, ouais. Alors que, plutôt que de... On peut pas utiliser... tu vas pas faire des histoires à Melun, quoi.
C'est une idée.
C'est une contrainte.
C'est un challenge.
Pour en avoir discuté avec Serge, il y a des histoires de distance, parce qu'effectivement, une course-poursuite à New York est toujours un petit peu plus sexy qu'une course-poursuite qui se commence dans le 20e, qui se termine à Bagnolet. C'est comme ça. Il y a aussi pas mal de choses qu'on plaque par notre imaginaire sur des séries. Et puis il y a aussi le poids du passé, c'est-à-dire que chaque bled en France est...
Oui, Marseille, c'est French Connection.
Oui,
Gérard Depardieu.
La course poursuite sous le métro aérien de Marseille.
Il y a ce poids-là aussi de l'imaginaire, et puis les distances. Tu discutes avec un Québécois, eux, ils peuvent faire 400 bornes sans rien, sans un bled, sans un village. Alors que nous, en 400 bornes, pour trouver un village, c'est facile. Quoi. Puis on est tous énervés de séries télé, on est tous énervés de cinéma hollywoodien.
C'est peut-être un petit peu dommage parce que la dernière rencontre polar qu'on a faite avec Aurélien Masson et Pierre-Yves Guiteau, justement, Pierre-Yves Guiteau, lui, il écrit des romans policiers ruraux qui prennent, dont les intrigues se déroulent dans les campagnes françaises, et ça fonctionne. Ça fonctionne effectivement quand on parle du Dakota ou de l'Utah ou de l'Arizona, effectivement, on a des images qui nous viennent. Effectivement, a priori, c'est moins sexy que la Sologne, mais la Sologne, c'est un décor absolument fantastique pour du polar, du thriller.
Comme auteur régionaliste comme ça, il y a Franck Bouys, c'est très bien parce que j'ai discuté avec lui. En fait, on a vraiment l'impression que ces endroits existent, c'est des histoires de paysans perdus dans un hameau, etc. Mais c'est pareil, les endroits n'existent pas. Mais l'impression qu'il y a du truc, c'est inscrit en nous comme New York. Il y a cette même dimension, on fait plus grand que la chose.
Pour avoir été à New York, après on va peut-être arrêter de digresser, mais on est parti à 4 à New York et on s'est rendu compte qu'on avait 4 images différentes de New York. En tout cas, on cherchait 4 choses différentes, que ce soit des séries télé, donc retrouver des images. Moi, c'était des scènes littéraires de Jacques Finet, par exemple, New York sous la neige. Et on avait donc tous une projection. Et en fait, t'as raison quand tu dis New York est une ville, est un personnage à part entière. Dans le Laurent, c'est que le choix des lieux pour les écrivains et pour nous en tant que lecteurs n'est pas anodin, parce qu'effectivement on y projette d'autres choses. Alors après, tu peux faire un bon polar, un bon polar, ça, c'est pas le problème, mais du coup tu le feras peut-être un petit peu différemment, quoi.
Eh bien, merci, merci à tous. Vous êtes d'une oreille plus qu'attentive.
C'est le chien.
Le chien, il est avec son maître. J'ai l'impression que c'est plus important pour lui. On est bien d'accord. Merci aussi à Monsieur Del Socorro de nous avoir rejoints. Voilà, il fallait le citer. vous avez, oui, effectivement, certainement des questions, puisque les livres sont à vous, les auteurs sont à vous. Allez-y.
Moi, c'est une question très simple, c'est avez-vous des nouvelles de Jeanne d'Arc ?
Je comprends la question. Oui, Jeanne d'Arc est en ce moment dans la forêt vierge, avec Ignace de Loyola, et puis la... comment elle s'appelait, Katharina de Heroso, la non-soldat. Ils sont en train de remonter l'Amazon pour trouver la roue fulgurante de Jean de La Hire avec ses boys scouts. Donc ça ne devrait pas tarder. Ça.
C'est joli.
Tout va bien.
Parce que j'ai beaucoup aimé les deux premiers.
C'est gentil.
C'est en finissier, là.
Ouais, il y a
en rapport avec un fascicule idiot que j'ai écrit. Idiot. L'impulsion de base, oui, c'est que j'étais invité à Épinal. Il y a un festival de littérature de l'imaginaire. Et je vois sur la route, on passe à... Je ne sais même plus
d'où elle est. Don Rémy.
À Don Rémy. Je me suis dit, tiens, là-bas, il va y avoir des vampires, parce que c'était la mode des vampires des trucs. Jeanne d'Arc, vampire, Jeanne d'Arc.
J'aime bien
contre le maître des vampires.
Et l'exploration du système solaire va aussi continuer.
Oui, les quatre planètes ont fait une histoire du système solaire en 1920. Donc c'est avec l'histoire de contraintes. Je fais dessiner des couvertures par des gens. Je leur offre une planète en fait du système solaire, qui c'est par exemple pluie de plomb sur Pluton. À chaque fois, il y a des allitérations dans le titre. Il y a le mousquetaire de Mars, il y a
Sérénade Sélénite,
donc Terreur terrestre arrive. Il y a Uranus, on a eu quelques petits soucis avec mon épouse, et finalement on s'en est sorti de manière assez glorieuse. Ça sera le dernier bus sur Uranus, ou pour Uranus, avec Soya.
On est content.
Il y a Jupiter au dactyle, il y a des trucs comme ça.
Et ça sortira quand, ça
d'ici Noël, normalement. Si les auteurs,
Ils seront à Sèvres.
Ça, c'est génial d'avoir des budgets comme ça, Uranus.
Et les repérages sont faits et tout. Hein. Sur plus de plans sur Pluton, Bruce Tarrell y a été en train quand même. C'est quand même.
C'est à noter. Quelqu'un d'autre avait.
Bien sûr, vous parliez de votre. Ça marche ?
Il faut l'approcher. Oui, on entend. Il faut vraiment l'approcher.
Vous parliez de votre représentation de votre Londres. Comment ça se passe matériellement ? Vous en faites un plan, vous, des dessins, des collages vous
Non, je pars de comment ça s'appelle des bails d'équerre, en fait, c'est des guides de voyage de l'époque. Donc je prends des guides de voyage de l'année 1908, 10 à 20, etc. Il y a des plans détaillés de Londres à ces époques-là, avec les rues, les moyens de transport. Il y a le coût des déplacements à chaque fois, et si on va au British Museum, on a la numérotation de toutes les toiles qui étaient là à cette année-là. Les donations, les trucs, c'est un prix de... Le bail d'équerre, c'est comme le guide du retard. Enfin, entre guillemets, c'est même... Je me sers que de ça, ça suffit largement. Faut pas quelque chose qui soit trop... C'est à la fois précis comme un guide, mais il n'y a aucune imagination derrière. Nous, on s'en sert comme on veut. Le British Museum, je peux très bien en faire un dernier étage où on s'occupe des fascicules, par exemple, ce qu'il n'y a pas en vrai. Mais... Je fais mon bail d'équerre à moi aussi. Okay, voilà.
Aublin. Quelqu'un d'autre ? Vous faites les timides ?
Les timides aussi. Mais...
Alors, merci, merci vraiment de votre écoute. Je vous propose eh bien, de nous sustenter parce que tout est présent devant nous. Hein, profitez-en. Je vous laisse vous approcher des auteurs. Vous avez les livres sur le petit pot à côté de vous. Si vous avez envie de passer un petit moment privilégié, discuter avec eux, que vous ayez lu ou non le livre, que ça vous a donné envie de le lire. Et partez pas trop vite parce que j'ai aussi des petits cadeaux pour vous. Donc merci vraiment beaucoup. Merci Alex, merci Rose,
merci
à Mme, merci à Francis.